Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Arriveriez-vous à prendre garde à votre soif de pouvoir et de justice? Nous ouvrons aujourd'hui le roman « Les dieux ont soif » signé par Anatole France, un roman publié en 1902 et disponible en format poche aux éditions Folio depuis octobre 1989. Amis auditeurs et auditrices, sortez vos marque-pages de la Révolution française, nous ouvrons aujourd'hui un roman d'Anatole France. Voici l'histoire du jeune Évariste Gamelin, jeune peintre parisien. Évariste vit maintenant auprès de sa mère, dans une capitale bouillonnante. La période de la Révolution française vient de se terminer et la Première République est encore fragile. Né dans le sang de la prise de la prison de la Bastille, le pouvoir qui flagelle sur ses jambes doit se donner des réponses fortes aux citoyens. Les tribunaux sont engorgés par les procès contre les loyaux sujets du défunt roi comme des contre-révolutionnaires qui sèment le désordre. Bien que persécuté à ses frontières par ses royaumes voisins, la France tente de repousser ses ennemis et de se purger elle-même des dissidents. Au milieu du tumulte des hommes et des événements, Évariste vit simplement, sans trop d'argent, car l'étoile ne rapporte plus grand-chose en cette période d'instabilité où la misère et la famine se sont accentuées. Sa vie se résume à peindre quelques portraits comme il le peut, et d'aimer Élodie, une jeune parisienne qui lui voue une passion débordante et quelque peu suspecte. Un jour, Évariste devient juré populaire dans un des procès qui fait asseoir l'autorité de la jeune République. Jugé pour trahison et manquement envers le peuple et la patrie, les généraux de l'armée de Louis XVI sont tous condamnés à l'échafaud à la suite de procès. Désormais, Évariste incarne le peuple, le jugement, la loyauté envers la France et cette nouvelle institution politique dans laquelle il croit, lui, jeune homme de la Révolution française. Mais, goûtant au plaisir du pouvoir de par son nouveau statut de juré dans les tribunaux, Évariste peut aussi goûter à la folie et à la démesure au point de se brûler les ailes.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Les aristocrates à la lanterne! Ah, ça ira, ça ira, ça ira! Les aristocrates, on les pendra!
We'll be right back.
Mea culpa du groupe Gojira sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8, un titre extrait du single éponyme paru en août 2024 dans les bacs pour prolonger nos souvenirs de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous revenons à présent à notre roman du jour, Les Dieux ont soif, le roman d'Anatole France que vous pouvez retrouver en format poche aux éditions Folio depuis octobre 1989. Dans notre roman du jour, nous suivons les histoires d'Évariste Gamelin, jeune peintre sans le sou. Durant cette période, Évariste papillonne. Il cherche du travail auprès de ses amis mais ne rencontre pas un franc succès. Il ne lui reste que le plaisir des femmes avec Élodie, une jeune femme qui aime de plus en plus le jeune Évariste. Et en le voyant évoluer comme il le peut dans ce Paris bouillonnant jusqu'au poste de juré, Élodie va être fascinée par Évariste, prenant du galon, accédant à un certain pouvoir, le veston maculé symboliquement par le sang des condamnés envoyés à l'échafaud. Ce qu'il faut bien garder en mémoire lorsque vous lisez ce roman, c'est que durant cette période historique, l'instauration de la Première République se fait dans la douleur, en France, mais aussi dans l'Europe. Le pays est entouré de monarchies qui sont terrorisées à l'idée de voir leur peuple se soulever contre le souverain. Des attaques sont organisées aux frontières françaises et de nombreuses planches à billets sont envoyées en France pour ruiner l'économie de la toute jeune République. À la potentielle ruine de l'économie s'ajoutent la famine et les crises au sein même du pays. Anatole France nous décrit avec force cette période d'instabilité. C'est dans ce moment-là que Paris s'organise autour de dotations de pain pour les habitants. Imaginez déjà, à cette période, les Parisiens et les Parisiennes dans une extrême pauvreté devant faire des files d'attente presque interminables dès le petit matin pour récupérer un maigre morceau de pain. Ce même peuple qui va aussi changer selon où il se trouve. Le roman laisse la part belle aussi aux paysans et agriculteurs des régions, ceux-là même qui ne croient toujours pas que le roi Louis XVI a été décapité par la Révolution française. Les Dieux ont soif est un grand roman sur la terreur. Cette sombre période post-révolutionnaire, c'est la période de la guillotine à tout va, pour celles et ceux qui sont jugés laxistes envers la République ou alors jugés trop monarchistes. La Convention, qui est au pouvoir durant cette période, rétablit l'ordre par cette terreur. Les pleins pouvoirs sont presque attribués aux juges pour qu'ils puissent appliquer les règles de cette République. Dans cette période de suspicion générale et de loyauté à outrance, les gens s'éloignent les uns des autres et se méfient, car la moindre délation devient source de jugement, et même l'institution de l'Église devient méfiante envers le pouvoir, de peur sans doute de perdre sa place dans la société. Ils jugeaient dans la fièvre et dans la somnolence que leur donnait l'excès du travail, sous les excitations du dehors et les ordres du souverain, sous les menaces des sans-culottes et des tricoteuses pressées dans les tribunes et dans l'enceinte publique, d'après des témoignages forcenés sur des réquisitoires frénétiques dans un air empesté qui appesantissait les cerveaux, faisait bourdonner les oreilles et battre les tempes et mettait un voile de sang sur les yeux. Des bruits vagues couraient dans le public sur des jurés corrompus par l'ordre des accusés. Mais à ces rumeurs, le jury tout entier répondait par des protestations indignées et des condamnations impitoyables. Enfin, c'était des hommes, ni pires ni meilleurs que les autres. L'innocence, le plus souvent, est un bonheur et non pas une vertu. Quiconque eût accepté de se mettre à leur place eût agi comme eux et accompli d'une âme médiocre ses tâches épouvantables. Antoinette, tant attendue, va enfin s'asseoir en robe noire dans le fauteuil fatal, au milieu d'un tel concert de haine que seule la certitude de l'issue qu'aurait le jugement en fit respecter les formes. Aux questions mortelles, l'accusé répondit tantôt avec l'instinct de la conservation, tantôt avec sa hauteur accoutumée, et, une fois, grâce à l'infamie d'un des accusateurs, avec la majesté d'une mère. L'outrage et la calomnie seuls étaient permis aux témoins, la défense fut glacée d'effroi. Le tribunal, se contraignant à juger dans les règles, attendait que tout cela fût fini pour jeter la tête de l'Autrichienne à l'Europe. Les Dieux en soif, Anatole France, page 183-184. La période qui s'ouvre, avec les pleins pouvoirs aux juges et un certain dérèglement des autres arcanes du pouvoir, trouve aujourd'hui un écho assez terrifiant. Dans son roman « Les dieux ont soif », Anatole France pousse au fur et à mesure de ses chapitres les murs de l'histoire pour nous raconter ces temps de crise. Les arcanes du pouvoir et des jugements hâtifs ne laissent pas de place à la nuance dans les propos ni aux décisions. Que ce soit le juge qui rend son verdict ou les politiques qui détricotent les lois, leur mode de pensée est binaire, tout ou rien. Vivre ou mourir. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde notre monde ou notre propre pays, nous pouvons constater avec amertume, parfois, que la nuance et la prise de hauteur sur certains sujets nous manquent. Penser avec ou contre, avoir un avis sur tout, et si vous ne savez pas penser, on vous dira comment le faire. La Révolution française, qui se profilait avec l'idéal de l'esprit des Lumières, se retrouve ici fossoyée, car les esprits ne sont plus libres de penser et de faire. D'un autre côté, nous ne pouvons pas oublier que le roman d'Anatole France s'inscrit dans un moment donné de l'histoire. Ne jugeons pas le passé avec les yeux d'aujourd'hui, mais analysons-le pour le comprendre. De ce roman, du moins, nous pouvons aussi tirer cet enseignement. Sur les bancs des juges des tribunaux de Paris, parmi les 15 jurés présents, nous retrouvons le jeune Évariste Gamelin. Il est intéressant de voir tout au long de ce roman comment sa pensée évolue. Lors du premier jugement qu'il doit exercer, Évariste Gamelin reste assez mesuré. Plus le roman avance, plus nous voyons le cœur d'Évariste s'assombrir. La quête de pouvoir, la soif de justice et de vengeance lui montent à la tête. Objet de mise à mort, la guillotine deviendra une sainte auprès d'Évariste, jusqu'à la surnommer la Sainte Guillotine. Au fil des condamnations, nous voyons tout de même Évariste douter. Car comment être sûr que ce que l'on va faire est pour le bien ? Évariste doute, mais revient dans le droit chemin assez rapidement, car il n'a qu'un seul objectif, exercer le pouvoir. Pour l'exercer, il faudrait peut-être parfois tordre les lois déjà établies devenant trop gênantes. Le titre de notre roman du jour, « Les dieux ont soif », doit plutôt se lire comme une interrogation quant aux personnes qui se cachent derrière le mot « dieu » au pluriel. Anatole France nous met entre les mains une clé. Les dieux, au premier abord, pourraient être les juges qui exercent le pouvoir. Seulement, nous ne devons pas oublier que de la réalité au roman, il reste une vérité. La révolution s'est faite par le peuple. Les dieux seraient alors le peuple. Charge à vous maintenant, amis lecteurs et lectrices, de lire le roman d'Anatole France pour comprendre que les dieux ont soif de liberté. Ainsi va la littérature et se termine cette nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Notre roman du jour est signé par Anatole France et il s'intitule « Les dieux ont soif », un roman qui est à retrouver aux éditions Folio, en librairie indépendante depuis octobre 1989, un roman qui vous plongera dans cette période trouble et incertaine post-révolution française. Notre chronique du jour est terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ouvrir ensemble le mois de mai avec une chronique hommage autour de la Seconde Guerre mondiale. La capsule auditive de notre chronique du jour est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de prendre garde à de fausses quêtes de justice et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.